Du logis fondamental par le père Philippe à Saint-Joseph le 28 mai 85.
Si la philosophie est Ancilla de la théologie, elle devient organon. N'est-elle pas condamnée à devenir une logique? Non. Il faut prendre analogiquement qu'est-ce que c'est que d'être Ancilla. Qu'est-ce que c'est que d'être Ancilla? Tous les serviteurs ne sont pas logiques. Il y a la logique est organone, c'est évident, elle est un instrument. Il y a beaucoup d'instruments qui ne sont pas la logique. Être en Chilla, ça veut dire être au service, de façon très générale. Être au service de la parole de Dieu. Et ça ne veut pas dire du tout, comme la logique, être un art qui doit, en quelque sorte, aider d'ordonner la pensée. Formalisé. Donc je dirais tout simplement, il y a différentes manières d'être serviteur. La logique est une manière d'être serviteur, mais ce n'est pas parce qu'on est serviteur qu'on doit être amené nécessairement à la logique. Mon père, hein, attendez. Au dernier cours, en se demandant ce qui devient la philosophie lorsqu'on s'en sert pour faire une théologie, nous avons dit que la philosophie doit perdre son ordre propre, oui, ce qui est très difficile. La philosophie doit perdre son jugement d'existence propre sur les réalités contingentes, oui. Seuls les principes propres découverts par la philosophie première, qui regarde l'être en tant qu'être, peuvent être gardés, oui. C'est bien ça qu'on a dit. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apprécier pourquoi ces principes peuvent être maintenus et pas les autres? Est-ce qu'on peut dire que la substance et l'acte peuvent être maintenus dans ce que nous pouvons saisir d'eux, mais parce qu'ils nous amènent à découvrir l'être premier? Vous comprenez, le grand principe, c'est le point de vue de l'analogie. Toute notion qui implique une limite, ne peut pas être servi, ne peut pas nous servir à parler de Dieu. Si la foi regarde en premier lieu Dieu et regarde tout dans la lumière de Dieu, nécessairement la parole de Dieu qui nous fait découvrir Dieu est une parole qui doit pouvoir atteindre immédiatement l'infini. Dieu est miséricordieux, Dieu est sage, Dieu est saint. Toutes ces attributs qui regardent Dieu impliquent quelque chose d'infini. On ne peut pas impliquer une limite. Donc c'est pour ça que je vous disais, il fallait une philosophie qui conçoive l'analogie. Alors on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'un peu l'analogie, si vous voulez, je crois qu'alors vous comprendrez mieux. Il y a encore deux autres questions, mais je vais d'abord expliquer ça, parce que c'est important. Alors, c'est l'analogie, il faut y arriver progressivement, hein, parce que c'est pas commode. On découvre l'analogie de multiples manières. On peut parler de l'analogie dans des perspectives différentes. Et il ne faut pas que l'analogie soit le fourre-tout, le capharnaüm philosophique, hein, quand on ne sait pas quelque chose, à l'analogie. Il faut que ce soit quelque chose de très précis dans notre intelligence. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que je crois qu'au terme de toute l'histoire de la philosophie, quand on regarde attentivement la manière dont la philosophie s'est développée en Occident, on peut dire qu'il y a deux types de philosophie. Une philosophie qui se sert de l'analogie, une philosophie qui se sert de la dialectique. Et pratiquement, il y a deux méthodes philosophiques. Mais l'analogie n'est pas une méthode au sens absolu, tandis que la dialectique est une méthode. Et au fond, on peut dire que ça se ramène tout cela à ces deux aspects. Alors, je vais regarder différents aspects de l'analogie. C'est quand même intéressant de voir, parce que Je crois que si on ne voit pas ça, on ne comprend pas du tout ce que je vous ai dit la dernière fois. Maintenant, on ne comprend pas du tout comment on peut se servir de l'analogie pour essayer, comment la philosophie mise au service de la parole de Dieu doit impliquer nécessairement une pensée analogique. Alors, les différents niveaux. Premier niveau au niveau logique. L'analogie au niveau logique. C'est un peu sec ce que je vous dirais. Vous pourrez le développer de multiples manières. L'analogie au niveau logique, je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. L'analogie au niveau logique, c'est l'attribution. Alors, vous avez une attribution dite univoque, une attribution dite équivoque, et une attribution dite analogique. Ça m'a dit ça textuellement, à la suite d'Aristote. Ça, c'est l'Aristote tout craché. Directement. Alors, l'analogie, l'attribution dite univoque. C'est lorsque vous dites Pierre est un animal. Pas flatteur, mais c'est univoque. Pierre est animal. Analogie, ça c'est une attribution univoque. Et vous pouvez dire animal et un vivant. Un vivant est un animal. Analogie univoque. Attribution univoque. Parce que si vous dites Pierre est un animal, le chat est un animal, c'est toujours le point de vue du genre. L'attribution du genre est univoque. L'attribution de la différence spécifique est univoque. L'application de l'espèce est univoque, ainsi de suite. Au fond, vous êtes là en face de l'attribution de l'universel. Des prédicats. L'attribution équivoque, c'est lorsque le même mot a des significations totalement différentes. Vache à l'œil du bœuf. Là, vous avez une attribution tout à fait, une attribution propre. Hein, parce que là, l'œil de bœuf. Puis vous combinez une bleue dans une lucarne, l'œil de bœuf. Quand vous dites le pré-ri, pas un pré-ri, mais le pré-ri. Attribution équivoque. Vous passez d'un genre à l'autre. Et il n'y a rien de commun. Ou très loin de commun. Il y a toujours quelque chose de commun. Comme je dis, comment on fait ça? Mais c'est très loin. Hein. C'est très loin. Oui. L'analogie, c'est lorsque c'est divers et il y a quelque chose de commun. Alors vous dites, par exemple, Dieu et ça, Pierre et ça, cet enfant et ça. Vous voyez que le mot sage aura une signification tout à fait diverse lorsqu'il est attribué à Dieu, lorsqu'il est attribué à Pierre. Donc, signification diverse avec quelque chose de commun. Un tikoinon, quelque chose de commun. Alors, vous êtes en face d'une attribution dite analogique. L'analogie est premièrement prise de ce côté-là. Vous voyez, alors qu'est-ce que vous dites? Que l'attribution analogique est entre les deux. Elle n'est ni univoque, ni équivoque. Elle est quelque chose d'univoque parce qu'il y a quelque chose de commun, quelque chose d'équivoque parce que c'est totalement différent. C'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a entre l'univocité et l'équivocité. Alors ça, c'est l'analogie, c'est l'attribution analogique. Tout problème de l'attribution, vous attribuez l'universel au singulier, normalement. Pierre est animal c'est un genre, c'est l'universel, et vous l'attribuez à un individu. Pierre est homme, c'est aussi univoque, c'est la différence spécifique, c'est l'espèce. Pierre est capable de rire, attribution univoque. Pierre est capable de rire et Jacques est capable de rire. Donc capable de rire est attribué de la même façon à Pierre, Jacques et Jean. Donc vous êtes en face de l'universel, ce qu'on appelle le prédicable. Le prédicable, c'est ça, c'est les modalités différentes de l'universel. On l'avait déjà vu une fois, très rapidement. Le genre, la différence spécifique, l'espèce, le propre et l'accident. Il faut le retenir. Il y a cinq prédicables, ça il faut le savoir. On l'oublie, mais il faut se le rappeler de temps en temps. Il y a 10 prédicaments et 5 prédicats. Et les 5 prédicats, c'est les 5 modalités de l'universel. Bon, l'attribution univoque, l'attribution équivoque, c'est lorsque il y a le même terme, œil de bœuf, mais qui, de fait, est totalement différent dans sa signification. Vous voyez, quand vous parlez des étoiles, parce que dans les étoiles, ça peut arriver assez facilement, alors vous parlez d'un certain groupe d'étoiles avec le même nom que les autres, avec le même nom qu'est habitué, la grande ours. C'est équivoque comme terme. Ce sont des termes qui ont la même signification. Il y a uniquement le terme qui est le même et la signification est totalement différente. Quand vous parlez de la figure peinte ou la figure en réalité, passer d'un domaine à l'autre sans qu'il y ait rien de commun. Alors vous voyez, il y a toujours quelque chose de commun. Au fond, en réalité, l'équivocité pure, je crois, n'existe pas. Il y a toujours une analogie sous-jacente, très très cachée, très lointaine, qui peut être une équivocité, qui peut être une analogie très très lointaine, uniquement par le mot, la signification du mot, n'est-ce pas, le sifflement du serpent. Vous voyez, alors ça peut s'attribuer comme ça, des choses très très lointaines, mais qui expriment qu'il y a quelque chose de sous-jacent à l'équivocité pure. Bon, au point de vue de l'analogie. Vous pouvez aller un peu plus loin au point de vue logique et essayer de comprendre qu'au point de vue logique, l'attribution univoque va impliquer aussi des raisonnements univoques, des raisonnements proprement dits et des raisonnements analogiques. Je vais parler de raisonnements analogiques. Mais je ne vais pas regarder là-dedans, maintenant. Je vais regarder deuxièmement. Au point de vue critique. Dans une perspective critique. Donc, ce n'est plus directement les mots et les attributs, c'est le point de vue de l'intelligibilité. Là, vous parlez de raison analogique. Ça qui est important. Les raisons analogiques, ça, c'est un point de vue critique. La ratio entis. La raison d'être. Est analogique. L'être n'est pas dans un genre. La raison d'être est analogique. Tous les transcendentaux, les cinq transcendentaux, sont des raisons analogiques. Bon, les cinq transcendentaux, là encore, il faut les connaître. Hein. Il faut les savoir par cœur. Alors, c'est S, tout se ramène à l'être, Res, à l'écoline, Ono, Bono, Véron. Faut les connaître. Ono, à l'écoline, Véron, Bono. Res traduisait chose, réalité, Ono, un, à l'écoline. Quelqu'un, quelque chose, très difficile, vrai et bien. Les cinq transcendantaux qui sont tous convertis avec l'être. En réalité, il faut dire que les cinq raisons des transcendantaux sont convertibles avec la raison d'être. Alors, comprenons bien ici. Nous sommes au niveau critique. C'est ça qui est le point de vue le plus intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analogie au niveau critique ? C'est au niveau de la forme intentionnelle. La critique se situe toujours au niveau des formes intentionnelles. Se situe au niveau des formes intentionnelles. C'est-à-dire, les formes intentionnelles, c'est les concepts. Il y a des concepts analogiques, il y a des concepts. L'universel n'est pas un concept, c'est la manière dont un concept se présente à moi. Il est universel mais singulier. Le concept, cette forme intentionnelle, donc implique ou une univocité, c'est-à-dire quand la signification est toujours la même, ou au contraire. Ces formes intentionnelles sont analogiques quand leurs significations sont diverses et impliquent quelque chose de commun. Il faut savoir, hein, connaissez-vous ça ? Il y a des choses qu'on doit savoir, ça fait partie de... Il faut essayer de comprendre comment on est arrivé, c'est parce que de fait on a vu, c'est ce que nous allons voir, que l'intelligence a des registres différents. Tout n'est pas au même registre. Et l'intelligence, elle est faite pour connaître la réalité, et pour connaître la réalité en profondeur plus ou moins grande. Donc il y a des niveaux d'intelligibilité différents. Le niveau d'intelligibilité le plus bas est univoque. Et le niveau d'intelligibilité le plus élevé est analogique. On comprend très bien ça. C'est tout à fait normal. Donc, par l'analogie, on essaie d'entrer dans les profondeurs d'une intelligence qui veut pénétrer plus avant. Une intelligence qui resterait uniquement superficielle et liée au niveau de la quantité, c'est l'intelligence qui reste toujours nous. Alors, c'est rationnel, vous comprenez. C'est rationnel, exprime justement les formes intentionnelles, les concepts, la raison d'être. Ou exprime, alors, troisièmement, au niveau métaphysique. Au niveau philosophie première, tout concept a un fondement dans la réalité. Alors vous pouvez parler de l'analogie au niveau ontologique, comme on dit, c'est-à-dire au niveau de la réalité, au niveau ontologique, au niveau du fondement de la réalité. Donc vous voyez, comprenez bien les trois niveaux sur lesquels on peut parler d'analogie. Et ça me semble très important. Toutes les confusions viennent de là. C'est qu'on confond ces trois niveaux. Le niveau de la parole, le niveau du concept et le niveau du fondement du concept, fondement réel du concept. Alors évidemment, c'est au niveau de la parole qu'on distingue en premier lieu l'analogie, c'est là que c'est plus simple de découvrir, puis vous le découvrez au niveau du concept, des concepts, puis vous le découvrez au niveau du fondement du concept. Tout concept a un fondement dans la réalité. Et c'est ce fondement dans la réalité que vous essayez de découvrir profondément. Alors, vous voyez, les concepts, les cinq rationels, les transcendantaux, ont des fondements dans la réalité. Qu'est-ce qu'est ce fondement dans la réalité ? C'est la réalité qui existe. L'être, il est dans la réalité. Le bien, il va arriver. Le vrai, il va arriver. L'âme, il est dans la réalité. La Likoud aussi. Oui. Mais vous le pensez. Et en le pensant, vous avez ces rationnels, ces concepts. Vous voyez un peu ces trois niveaux. Ça, je crois que c'est très important de comprendre que l'analogie se prend à ces trois niveaux. Alors quand vous pensez, quand vous dites une pensée analogique, c'est au niveau critique. Quand vous dites l'analogie, le fondement de l'analogie, au niveau ontologique, au niveau de la parole. Ça, c'est une première distinction que je crois fondamentale à faire. Qui ne se fait pas beaucoup, hein. Je vous la donne parce que je crois que j'ai beaucoup étudié ce problème de l'analogie, parce que je crois que c'est très important. Et pratiquement, j'ai vu que toutes les confusions provenaient du fait que on confondait le point de vue logique avec le point de vue critique et le point de vue proprement ontologique, ce qu'on fait tout le temps depuis Octave. Hein. N'oubliez jamais. On a beaucoup de peine à distinguer le point de vue logique du point de vue critique et du point de vue métaphysique. Alors quand on commence à faire ces confusions, on ne voit plus du tout. Alors, notez, le point de vue logique, c'est l'universel. J'affecte la parole, le mot, le terme. Le terme, l'universel, c'est l'être logique. La critique est au-delà de l'universel pour voir le fondement de l'universel qui est le concept. Et la métaphysique donne le fondement du concept. Vous voyez, donc le fondement du fondement de l'universel. On a les trois niveaux. Donc ça, c'est la première distinction qu'on doit faire. Maintenant, nous allons faire une petite distinction autre qu'on retrouve souvent. On distingue selon le langage de saint Thomas. Parce qu'ici, le langage de saint Thomas et le langage d'Aristote sont différents. Donc il faut tout de suite le savoir, la bonne analogie. Pour Aristote, l'analogie, et ça je crois qu'il faut le dire au point de vue historique, ça nous aide à mieux comprendre. Pour Aristote, l'analogie au sens fort n'existe qu'au niveau métaphysique de la découverte de l'être en acte et de l'être en puissance. Aristote n'emploie jamais l'analogie au niveau de la découverte de la substance. Et au niveau du prédicament, il dit tout simplement l'être est dit de multiples manières. Quand Aristote dit l'être est dit de multiples manières, cette diversité dans les significations de l'être, cette diversité implique nécessairement un ordre. Et si ça implique un ordre, ça implique un ordre vers quelque chose qui est un. Parce qu'Aristote appellera la pros en. La diversité est vers l'un. Diversité implique un ordre vers l'un. Et c'est environnement ce qu'Aristote donnera pour les prédicaments. Les 10 manières dont l'être se divise. Substance, qualité, quantité, relation, les 10 prédicaments. Vous connaissez quand je vous dis prédicaments. Les 10 prédicaments, c'est la division de l'être dans diverses significations. Et toutes ces significations diverses ont quelque chose d'un. Elles tendent vers l'un. Alors, Aristote parlera jamais d'analogie à ce niveau. Il faut le savoir. Il dit simplement, l'être se dit de multiples manières. L'être est dit de multiples manières. Autre et autres. Arrivons dira à une autre, c'est-à-dire que je dirai. Autre et autre. L'être en acte et l'être en puissance. Et alors là, il dira, l'être se dit analogiquement. Se dit de diverses manières analogiquement. Analogiquement. Qu'est-ce que ça veut dire analogia en grec ? Proportion. C'est un mot mathématique. L'analogia vient des mathématiques, hein, faut pas l'oublier. Et donc ça vient des Égyptiens et ça vient de la classe sacerdotale qui avait des loisirs. Pour employer le terme d'Aristote, hein, puisque les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. C'est intéressant de voir ça. Donc, c'est un terme qui vient de chez nous. Analogie. Hein, de la caste sacerdotale. C'est pour ça qu'on doit comprendre ça parfaitement. C'est l'analogia, c'est la proportion. Alors vous comprenez que la proportion est parfaite quand c'est autre, autre. Et on établit dans autre et autre une certaine unité. Autre, l'être en acte, autre, l'être en puissance. Et il y a quelque chose d'un, puisque c'est l'être. Donc, autre, autre, et dans l'altérité, dans la diversité même, il y a l'unité. L'unité n'est pas en dehors, l'unité est à l'intérieur. C'est là la grosse différence. Vers le prosel, l'unité est à l'extérieur. Tandis qu'au contraire, dans autre, autre, c'est-à-dire l'être en acte et l'être en puissance, l'unité est à l'intérieur. L'être en acte est autre que l'être en puissance, totalement autre. Et cependant, tous les deux sont être. Donc, l'unité de quelque chose de commun n'est pas extérieure et intérieure. Alors, je comprends très bien que l'analogia n'est toute, dans toute sa force n'est que lorsqu'il y a la division de l'être en acte et l'être en puissance. De sorte qu'Aristote parlera d'analogia toujours à ce niveau-là. Et non pas à ce niveau-là. Oui. Vous voyez donc que l'analogie pour Aristote se fonde sur la division de l'être. L'être se divise. Et parce que c'est l'être qui se divise, il y a donc une diversité et une certaine unité. L'unité est ou immanente à la division. Alors, on a l'analogie au sens fort, on a une unité extrinsèque, on tend vers l'un. Alors, à ce moment-là, on a ce qu'Aristote appellera un ordre. L'ordre n'est pas une proportion. On aura un ordre vers l'un. Tandis que de l'autre côté, on a l'analogie. De fait, là j'ai étudié tout, dans tout Aristote la chose, pour avoir un peu le cœur net là-dessus, parce qu'on a dit tellement de bêtises sur l'analogie, qu'il est intéressant de voir la source. Le premier qui a utilisé l'analogie, c'est Aristote. Platon l'emploie, c'est bien évident. Platon emploie le terme analogia, mais il n'emploie pas du tout d'une façon stricte. Le premier qui vraiment employait l'analogia de façon stricte, c'est Aristote. Et Aristote fait tout de suite la distinction attribution univoque équivoque analogique. Ça, c'est sûr. Mais ce qui intéresse Aristote, ce n'est pas tellement l'aspect logique. Ce qui intéresse Aristote, c'est que l'analogie divise, plus exactement, l'analogie se fonde sur la division de l'être. Si l'être ne se divisait pas, c'est parce qu'il y a une division, alors ça c'est très intéressant au point de vue de la pensée, de voir que l'analogie se fonde sur la division. Comme la dialectique. classe hérétique se fonde sur les divisions. S'il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de hérétique. C'est bien évident. Il faut que les deux parties, que le tout se divise en deux parties qui s'opposent pour qu'il puisse y avoir une synthèse. Pour qu'il puisse y avoir une synthèse, il faut une division. La condition sine qua non à toute synthèse, c'est une division. S'il n'y a pas de division, il ne peut pas y avoir de synthèse. Alors c'est très curieux de voir qu'il y a quelque chose de commun entre le procédé dialectique et le procédé analogique. Et ce quelque chose de commun, c'est l'intelligence qui divise. Et donc ce qu'il y a de plus fondamental au point de vue critique, ce qu'il y a de plus fondamental dans l'exigence de la connaissance, c'est la division. Mais il y a diverses manières de diviser. On coupe un poulet, ou avec un sécateur, très rapide, dans une brusquosité, ou vous coupez d'une façon élégante, en respectant l'ordre organique. Vous prenez une aile, vous prenez une pâte, vous prenez le croupion. Venez, vous respectez l'ordre organique du poulet, quoi. Tandis que si vous n'avez pas le temps, c'est que n'importe quel poulet, n'importe quoi, sans aucune espèce d'importance, le gigot, tout, et là, vous le coupez. Vous voyez, c'est très curieux, il y a deux manières de diviser. D'une manière organique, en respectant la qualité de l'être, ou au contraire, de l'extérieur. Alors, je dis, je crains que la dialectique soit le sécateur. Et je crois que la division de l'analogie, c'est justement l'aspect organique. Vous ne divisez pas n'importe où comment l'être en acte et l'être en puissance. Vous ne divisez pas n'importe comment la substance de la qualité. Il y aurait des tas d'applications. Et je crois que ça repose sur les divisions. C'est quelque chose de très très fondamental, ça. Dès qu'on a un tout petit peu le sens scientifique, on comprend très bien qu'il y a diverses manières de diviser. Il y a des gens qui pigent et qui divisent toujours très bien. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont divisé, après on ne peut plus rien faire, c'est de la marmelade et puis c'est tout. Ils ont... C'est vrai, après avoir coupé avec un sécateur de poulet, vous ne pouvez pas le reconstruire, c'est impossible. Oui, avec de la colle, et si ça tient, mais vous ne pouvez pas. Tandis que quand c'est bien divisé, ah, vous reconnaissez. C'est très curieux, ça. L'art de diviser, hein, c'est de voir les jointures et de voir ce qui peut être divisé d'un autre, ce qui ne peut pas être divisé. Je crois que c'est très, très important. Ça n'a pas été très étudié au point de vue philosophique, ça. Je ne crois pas que ça ait été très étudié au point de vue de la division, au point de vue critique. Et je crois que toute la dialectique repose sur la division. Apollinaire le dit, il dit que toute la division, toute la dialectique repose sur l'infini. Ben oui, mais l'infini, ça se divise. Hein. C'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que l'infini, ça se divise indéfiniment. Alors, vous voyez, la dialectique, ça se continue indéfiniment, tandis que l'analogie ne se divise pas indéfiniment. Parce que vous touchez quelque chose de très, très fondamental et de premier. Un principe ne se divise plus. C'est irréductible. C'est indivisible. C'est un. Une cause et principe. Elle ne se divise plus. Tandis que l'infini quantitatif se divise indéfiniment. Vous voyez là, deux spiritualités tout à fait différentes. Hein. La spiritualité de la division quantitative et la spiritualité d'une division analogique. C'est de deux manières très différentes. Donc, je prends ça. Maintenant, passons à saint Thomas. Ça, c'est Aristote. Facile à retenir. Les deux grandes divisions de l'être, c'est le procès, l'ordre vers loin. Là, c'est la substance. Et l'autre, allô, allô. séparé, divisé. Saint Thomas, lui, prendra un langage différent. Pourquoi ? Parce qu'entre Aristote et saint Thomas, il y a Avicenne. Là, Avicenne d'Averroès. Or, les Arabes n'ont plus pris le même langage. Alors ça, il faudrait se demander pourquoi. Ils ont pris l'analogie de façon beaucoup plus étendue qu'Aristote. Saint Thomas parlera d'analogie dès que vous serez en face de la multiplicité des significations de l'être. Donc pour Saint Thomas, il y a une première analogie, il le dit textuellement, donc ça c'est le langage de Saint Thomas, il faut le savoir, c'est le langage de Saint Thomas. Il y aura l'analogie qui se dira indivine. Oui, l'analogie adonum correspondant au prosème. C'est évident. L'analogie adonum. Puis saint Thomas parlera de l'analogie de proportion. Alors ce sera anno, anno. Autre, autre. Et puis saint Thomas parlera de l'analogie de proportionnalité. Que vous ne voyez pas dans Aristote. Et ça, c'est propre à tout le langage humain. Mais c'est normal, il y a une espèce de développement. Je ne suis pas contre. Hein. Je comprends très bien que saint Thomas puisse dire ça. Il faut simplement savoir qu'il y a eu de ce côté-là une évolution. L'évolution du côté du langage et sans doute du côté de la pensée. Il va y avoir quelque chose de particulier. Donc l'analogie de proportionnalité. C'est, vous voyez bien, quand il y a des proportions qu'on peut mettre en égalité. Alors il appelle ça l'analogie de proportionnalité. C'est pas seulement autre, autre, mais alors il y aura une espèce d'égalité qu'on fera à l'intérieur même de ces proportions. C'est curieux. Et puis saint Thomas parlera de l'analogie d'attribution. Et tout ça un peu sur le même plan. L'analogie d'attribution et une proportionnalité, mais une proportion avec l'analogie de nous. C'est un peu sur le même plan. Saint Thomas est théologien. En tant que théologien, il se sert de la logique, il se sert de la critique, il se sert de la philosophie première. Tout est vu dans une certaine perspective très différente. Il ne distingue pas du tout comme un philosophe logique, critique, métaphysique. Ça, c'est un fait. Alors, on est en face d'un problème très complexe de l'analogie dans saint Thomas. C'est pour ça que, au point de vue thomiste, vous avez des positions extrêmement différentes. C'est pour ça que j'ai essayé de l'étudier en regardant d'abord Aristote. Pour essayer de comprendre comment saint Thomas aboutissait à cette diversité de positions. Alors, vous avez ordinairement, au point de vue thomiste, ceux qui sont pour dire l'analogie de proportion, c'est la véritable. Et l'analogie de proportionnalité. Et puis ceux qui disent non, c'est l'analogie d'attribution. Alors, je crois personnellement qu'il suffit tout simplement de comprendre qui est un noyau fondamental de l'analogie, qui reste la proportion. Et ça, Aristote a bien vu. C'est le noyau de la division de l'être. Mais quand on est dans une vision de sagesse, alors, c'est ça, autrement dit, en réalité, vous avez deux types d'analogie. Ça, c'est vrai. Si j'emploie le langage de saint Thomas, deux types d'analogie. L'analogie adunum, l'analogie de proportion, qui correspondent aux deux divisions de l'être. l'être qui se divise dans les catégories, les 10 catégories, et l'être qui se divise en être, en acte et en puissance. Donc vous avez deux. Et ça, simplement, dans tout le monde, ça, on ne peut pas nier. Je crois que ça, c'est fondamental et c'est irréductible. Il y a deux divisions de l'être. Pour saint Thomas, il y a une troisième division de l'être. L'un est multiple. D'où un troisième type d'analogie, l'analogie de proportionnalité. Ce qu'Aristote ne dit pas, Aristote ne dit jamais que l'être se divise en un et multiple. Jamais. Je crois que c'est une question plus que de langage, c'est une perspective assez différente entre les deux. Pour Aristote, l'un est propriété de l'être. Pour saint Thomas aussi, du reste. Si l'un est propriété de l'être, il ne divise pas l'être. Il suit. L'un est acolyte. Il le dit tout le temps. L'un est acolyte de l'être. Alors, il est l'acolyte de la substance, ça dépend des jours, et puis il est l'acolyte de l'acte, ça dépend des autres jours. Les jours de fête, c'est l'acte, et les jours de la féerie, c'est la substance. Vous voyez ? Donc, l'un est l'acolyte de la substance, il est l'acolyte de l'acte. Et le multiple, il est l'acolyte de l'accident. Et il est l'acolyte de l'être en puissance. Tout être en puissance est multiple. Et tout être accident, tous les accidents sont multiples. C'est très curieux, ça. Alors, pour Aristote, voyez, la division de l'être en acte et de l'être en puissance n'est pas, au sens strict, une nouvelle division de l'être, puisque c'est acolyte. Ça suit. L'acolyte, c'est celui qui suit, normalement. De temps en temps, il précède, mais normalement, il suit l'acolyte. N'est-ce pas ? Acolyte, c'est celui qui suit, qui accompagne, mais qui suit. C'est pas lui qui détermine. N'est-ce pas ? C'est pas lui qui détermine l'acolyte. Sauf quand derrière, c'est quelqu'un de trop vieux, alors il le détermine. Il a la canne de l'aveugle, alors ça c'est très bien la canne de l'aveugle. Mais autrement, c'est il suit. Et alors, on comprend comment la division de l'un et du multiple ne divise pas l'être, mais présuppose cette division de l'être, mais l'amplifie, d'où la proportionnalité, qui est quelque chose qui amplifie le point de vue de la proportion. Et puis, troisième aspect de saint Thomas, qui est le regard de sagesse. Alors, dans une vision de sagesse, j'ai l'attribution analogique. Je dis, Dieu est absolument simple. C'est un jugement de sagesse qui est analogique. Puisque la simplicité est attribuée à Dieu d'une autre manière qu'elle est attribuée à l'eau. Cette eau est simple. Et Dieu est absolument simple. Dieu est sage. Dieu est parfait. Sagesse et perfection sont attribuées à Dieu d'une façon tout à fait différente que à Pierre, à l'enfant. Cet enfant est sage. Il est mignon et sage. Hein, c'est ce qu'ils diront. Parce qu'il est sage. Il dort toute la nuit sans réveiller ses parents. C'est le signe de la sagesse, c'est évident. Il dort toutes les nuits sans réveiller ses parents. Un novice est sage, oui, quand il laisse dormir son père maître, sans le déranger, alors il est sage. Une sagesse merveilleuse. C'est très étonnant, le mot sage. Quand on dit cet enfant est sage. Alors Dieu, c'est parce qu'il dort tout le temps sans déranger ses créatures, c'est pour ça qu'il est sage. Non, c'est autre chose. Le mot « sagesse » a une signification totalement différente de l'enfant qui est dans son berceau parce qu'il est sage. Et Dieu. Et pourtant, on emploie le même mot. C'est très curieux, ça. Et il y a analogie d'attribution. Donc l'analogie d'attribution chez saint Thomas fait la synthèse des trois. Vous avez donc bien quatre niveaux d'analogie chez saint Thomas. Quatre niveaux d'analogie. Mais comme c'est complexe, mon analogie, c'est pas ça du tout. Moi, ça me ressemble. Mais il faut essayer de saisir ce que ça signifie. C'est ça qui est très important. Ça signifie que l'intelligence ordonnée à l'être ne saisit pas intuitivement l'être, mais saisit l'être par ses divers principes. C'est ça que ça veut dire. Une fois que vous avez saisi ça, vous avez saisi l'analogie. Si vous aviez un regard intuitif de l'être, vous n'aurez pas d'analogie. Quand vous saisissez intuitivement quelque chose, vous n'avez pas d'analogie. Ça n'implique pas de division. Mais c'est globalement. Le globalisme s'oppose à l'analogie. Il est toujours uniforme, le globalisme. L'analogie apparaît dans la division. Il faut qu'il y ait une division pour qu'il y ait une analogie. Or, l'être se divise dans ses différents principes. C'est à partir de là que je peux saisir les différents niveaux d'analogie. Si vous avez des difficultés là-dessus, parce que ça vaut la peine, c'est un sujet quand même tellement important, vous les direz.